Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cacophonie gouvernementale depuis plusieurs semaines, menace de démission du haut commissaire chargé du dossier, rappel des promesses de campagne du candidat Macron, le dossier des retraites et la question de l'âge légal du départ actuellement fixé à 62 ans n'en finit pas ces derniers jours de perturber l'avancement d'une réforme très complexe. Il s'agit en effet d'unifier un système qui compte actuellement 42 régimes différents. Cette réforme est prévue cette année et c'est certainement la plus compliquée et la plus sensible que la majorité ait eu à mener depuis le début du quinquennat. La question était hautement inflammable et c'est notre question du jour. Faut-il repousser l'âge de la retraite ? Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Florence Legros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directrice d'ICN Business School. Et Henri Sterdignac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, que nos auditeurs connaissent bien. Pourquoi cette question de l'âge du départ à la retraite est-elle aussi sensible, Florence Legros?
De manière générale, quand les gens s'intéressent à leur retraite, individuellement, il y a deux questions, me semble-t-il, qui les intéressent, c'est combien et quand. Donc, évidemment, ça va être d'autant plus sensible que dans une période de vieillissement de la population, en fait, on peut agir sur trois variables, soit le taux de cotisation, soit l'âge de départ à la retraite, et il faudra probablement qu'on revienne sur la définition
On va en parler, c'est prévu.
Et évidemment, le niveau des pensions. Donc, comme on a beaucoup joué pour l'instant sur le niveau des pensions, un peu sur l'âge également, en fait, la question, c'est de savoir, hein, dans une conjoncture où on a le sentiment qu'il n'est pas question d'augmenter les taux de cotisation, dans quelle mesure, quel va être le dosage entre les deux. Mais encore une fois, il n'est pas certain que le terme d'âge de la retraite soit significatif.
Henri Sterdignac, cette question de l'âge de départ, l'âge légal en tout cas, elle émaille toutes les réformes des retraites depuis des années. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas vraiment fait la réforme qu'il fallait jusqu'à présent?
Jusqu'à présent, on a fait de nombreuses réformes qui ont permis cette année d'avoir un système de retraite en équilibre. Le problème, c'est que la question de l'âge est un peu compliquée, puisque d'un côté, il y a l'âge légal auquel Macron a dit on ne toucherait pas, mais de l'autre côté, jusqu'à présent, il y avait une durée requise de cotisation pour avoir droit à une retraite au taux plein, qui était de 42 ans, qui devait passer à 43 ans, et comme les jeunes commencent à accumuler des trimestres à 23 ans, 23 plus
43,
ça fait 66. Donc automatiquement, il y avait un report de l'âge de départ effectif à la retraite. Le problème, c'est qu'avec la nouvelle réforme, si on passe avec un système en points, la notion de durée de cotisation disparaît. Et donc ce malheureux Jean-Paul Delevoye, il doit trouver un truc pour à la fois maintenir l'âge légal à 62 ans et par ailleurs faire que les gens partent à 66 ans. Et c'est ça son problème.
Alors Florence Legros, vous allez tenter de répondre à la question que vous allez d'ailleurs répondre à la question que vous souleviez. Quelle est la différence entre l'âge légal de départ et l'âge effectif en fait?
Alors il faut distinguer effectivement l'âge effectif, l'âge légal.
L'âge moyen aussi, il y a plusieurs.
L'âge moyen. L'âge de cessation d'activité, qui n'est pas confondu avec l'âge de départ à la retraite de manière générale, et aussi l'âge de l'annulation de la décote, hein, ce qui là devient assez technique. Alors, l'âge légal, en fait, de manière générale, les âges de départ à la retraite, on peut considérer qu'ils sont encadrés par un âge minimal, donc qui est celui de 62 ans auquel faisait allusion Henri Sterdignac à l'instant, qui est l'âge minimum de départ à la retraite à condition d'avoir obtenu les annuités. 5 ans plus tard, ça c'est comme ça jusqu'à présent, il y a un âge d'annulation de la décote. Donc 62 plus 5, c'est 67 pour les générations qui sont nées après 1958, dans le privé. Parce qu'après, c'est légalement, enfin, c'est un peu différent selon les régimes auxquels on s'intéresse, mais on va plutôt parler du privé, qui est celui qui est un peu sur la sellette en ce moment. Après, vous avez des âges moyens, de liquidation des droits. En ce moment, c'est à peu près 63 ans. Donc on est déjà au-dessus de 62 ans. Pour les raisons qui ont été évoquées par Henri Sterdyniak à l'instant, qui est que ça résulte ni plus ni moins d'une addition entre le moment où la population qui liquide aujourd'hui est rentrée sur le marché du travail, plus 42 ans, qui est le minimum de contribution. Et puis il y a l'âge moyen de cessation d'activité, et l'âge moyen de cessation d'activité est plus bas, il est de 62,5 ans en ce moment, et donc on voit bien qu'il y a un petit décalage entre ces qui est lié à des statuts particuliers, par exemple handicap, invalidité, etc.
Qui font gagner un peu de temps dans les cotisations.
Oui. Alors, juste pour essayer de rebondir sur ce qui a été dit, sur la difficulté de Monsieur Delavoye et avec un régime par points, c'est que en fait, le régime par points, effectivement, comme ça a été dit par Henri Sterdyniak tout à fait justement, annule cette idée de durée de cotisation, puisqu'en fait, vous pouvez partir à la retraite avec un certain nombre de points, et c'est ce nombre de points qui, compte tenu de votre âge, va vous donner votre pension. Ça veut dire qu'on a substitué à une durée de cotisation obligatoire une incitation à partir tard. Donc on substitue un âge, une durée minimum, et on y préfère des incitations. Et donc l'idée de Monsieur Delavoye, si j'ai bien compris, c'est de dire on ne touche pas à cet âge minimal qui est de 62 ans, qui continuera à encadrer la décision de départ à la retraite, qui peut intervenir au maximum à 70 ans dans le privé, il faut s'en souvenir.
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer la cacophonie gouvernementale à ce sujet depuis plusieurs jours, Henri Sterdyniak? Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde au sein du gouvernement. Est-ce que peut-être des anciennes chapelles venues plutôt de la droite sont un peu différentes de ce que peuvent dire d'autres personnes au gouvernement?
D'une part, évidemment, le gouvernement est coincé par la promesse de Macron de maintenir à 62 ans l'âge de départ à la retraite, et d'autre part, un certain nombre de personnes qui émanent du gouvernement, qui émanent de la droite, sont restées fidèles à l'idée qu'avait le candidat de la droite, qui est de faire passer assez rapidement l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans.
Oui, c'est ce que proposait François Fillon, exactement.
C'est ce que proposait François Fillon, et c'est toujours l'idée de beaucoup de gens disant, pour équilibrer le système, il n'y a qu'à passer assez rapidement à 65 ans. Évidemment, ces cacophonies sont accentuées par le fait qu'il n'y a pas encore de projet présenté par Jean-Paul Delavoye, et donc tout est ouvert.
Est-ce que l'augmentation de la CSG pour les retraités n'a pas rendu un peu tout le monde méfiant, et notamment les futurs retraités, Florence Legros? Est-ce qu'ils ne se voient pas un petit peu comme des possibles dindons de la farce? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur qui a été faite au départ là-dessus?
Probablement, ça s'est fait de façon assez maladroite, mais surtout dans une période, me semble-t-il, où ce qui a été dit tout à l'heure, et qu'on a eu une succession de réformes qui ont été des réformes paramétriques, donc allongement progressif de la durée d'activité, notamment depuis 2010, mais depuis 1993, il y a une mesure qui est relativement technique et qui commence à faire sentir ses effets, c'est la désindexation des pensions par rapport aux salaires qui ont été indexées jusqu'à il y a très peu de temps, sur les prix. Et depuis à peu près...
Ça veut dire que les retraites n'augmentent pas avec l'inflation, c'est ça que ça veut dire?
Non, ouais. Ça veut dire que de 93 jusqu'à aujourd'hui, assez récent, elles n'augmentaient pas comme les salaires, elles augmentaient comme les prix. Et donc, en fait, cette désindexation fait perdre du pouvoir d'achat relatif aux retraités par rapport aux actifs. Donc, on parle bien de pouvoir d'achat relatif dans ces cas-là. Mais dès lors que ça n'augmente plus comme l'inflation, là, on perd du pouvoir d'achat tout court. Et donc, en fait, au fur et à mesure que l'inflation... Alors, on est dans une période où l'inflation n'est pas énorme, mais le fait est que symboliquement, on comprend bien que ça soit un peu sensible. Donc, si vous rajoutez à ça cette idée qu'on va prélever en plus de la CSG, effectivement, c'est pas très adroit.
En 3 ans, il faut voir qu'en 3 ans, les retraités ont perdu 6% de pouvoir d'achat. Ce qui est quand même... ce qui est quand même considérable, et que d'autre part, il y a des bruits qui disent on va leur faire payer aussi la dépendance. Mmh. Donc naturellement, les retraités ont des raisons profondes d'être mécontent.
Oui, pourquoi lier ce dossier des retraites et celui du financement de la dépendance, Florence Legros, c'est ça aussi, c'est une erreur stratégique parce que les besoins de financement de la dépendance vont être de plus en plus importants avec le vieillissement.
Alors, en réalité, les calculs montrent que c'est pas si énorme que ça. Ouais. C'est exprimé en points de PIB, ça représente de mémoire quelque chose comme 0,3-0,4 points de PIB. Alors, la question, c'est que individuellement, la dépendance est un problème. C'est-à-dire, quand vous avez des parents qui sont dépendants, effectivement, ça coûte cher. On est à 1 390 € en moyenne de retraite mensuelle. Le coût moyen de la dépendance, c'est-à-dire le reste à charge, après remboursement des soins de santé, etc., est de 2 200 € en gros. Donc on voit bien qu'il faut, il faut combler une différence et que ça peut être coûteux pour les familles. À la fois, ça ne dure pas très longtemps, la dépendance, donc ça dure en moyenne 3 ans et demi. Donc on est à la fois entre quelque chose qui individuellement peut être coûteux et qui collectivement ne l'est pas tant que ça, avec derrière des assurances privées qui n'ont jamais fonctionné. Pour des raisons simples, c'est que l'horizon est très éloigné et très incertain. Quand vous avez 20 ans, la dépendance, franchement, ça paraît très éloigné.
Alors, parce que l'âge moyen de la dépendance, c'est 83 ans, donc ça fait 63 ans plus tard, effectivement, on n'a pas tendance à y penser.
D'où l'idée de faire cotiser plus tôt les gens quand ils approchent de l'âge de la retraite ou quand ils y sont, qui est le sous-jacent au rapport Libault. Mais là, on rajoute une couche, effectivement, en disant, voilà une raison supplémentaire de passer de 62 à 63 ans, ce qui vient en plus à confondre les risques dépendance et les risques vieillesse, ce qui est peut-être pas idéal.
Le grand problème, c'est que Monsieur Delevoye a dit on n'augmentera pas la part des retraites dans le PIB, et comme le nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs va augmenter de 24%,
actuellement,
ça veut dire...
C'est 15%,
c'est 14%.
Donc
ça veut dire que il va falloir baisser déjà de 24% le niveau de vie relatif des retraités. Et par ailleurs, pour inciter les gens effectivement à rester plus tard, ce qui est dans les tuyaux sans qu'on le dise, c'est qu'il y aura d'une façon ou d'une autre un âge pivot de l'ordre de 65 ans, et que si vous partez une année plus tôt, vous perdrez 7,5% de pouvoir d'achat. Alors vous voyez que, on va dire aux gens, vous pouvez toujours partir à 62 ans, mais le problème, c'est que ils auront une retraite qui va être la moitié de ce qu'ils ont actuellement en partant à 62 ans. Et donc, il va falloir, le grand problème de Monsieur Delevoye, c'est qu'il va falloir présenter ce projet, sachant que les retraités ont des tas de raisons de se méfier du gouvernement.
C'est justement le problème, ça. Si on comprend bien, l'âge légal, c'est un totem politique et social, Florence Legros, mais est-ce qu'il est techniquement possible de reculer l'âge du départ effectif sans toucher à l'âge légal ?
Bien sûr,
avec... C'est ce qui se passe actuellement, en fait.
C'est ce qui se passe actuellement, puisqu'on est déjà à plus de 63 ans, et donc, alors que l'âge minimum... et de 62 ans. La réalité, c'est que cet âge minimal n'a pas tellement de sens, dans la mesure où après on a des décotes, où ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les jeunes rentrent de plus en plus tardivement dans la vie active, et donc mécaniquement, il leur est impossible d'avoir cotisé 42 ans en partant à 62 ans. Enfin, je parle, il leur sera techniquement impossible. Donc effectivement, il y a un totem, il y a un symbole. Et d'ailleurs, pour revenir à la question antérieure, les déclarations de certains ministres qui effectivement s'accrochent à ce qui avait été dit par leur candidat initial au présidentiel relèvent également du totem, puisque en fait ils sont en train on est complètement dans le symbole. Alors on peut dire que c'est plus réaliste de dire que ça sera ça, mais enfin le système qui est mis en place et qui a été décrit à l'instant n'est pas celui-là. C'est un système qui repose sur des incitations et une perte de pouvoir d'achat si vous partez avant l'âge pivot.
Il faut rappeler aussi que la CFDT avait obtenu le maintien du système des carrières longues. Et le système des carrières longues, ça permet, si vous avez commencé à travailler relativement jeune, de partir à 60 ans. Et le problème aussi, c'est est-ce que ce système va être maintenu ? Autre problème, il y a certaines professions où on a du mal à travailler après un certain âge. Il y a les questions de la pénibilité, question de bon voilà problème. Il faut préserver et sans doute étendre ce système. Hein, si on allonge la durée de carrière, il faut que les gens qui sont qui ont des métiers pénibles, qui sont routiers, qui sont égoutiers, eh ben puissent effectivement partir à un âge raisonnable.
Donc je rebondis sur ce que vous venez de dire, Henri Sterdignac, la question de l'emploi des seniors et de leur taux d'emploi, c'est peut-être le grand non-dit de cette réforme. Florence Legros, vous le disiez, la cessation d'activité, elle est antérieure à l'âge de 62 ans.
Exactement. Donc on a effectivement, alors l'écart s'est beaucoup réduit à un moment. En 2011, il a été quasiment nul et il commence à se réécarter entre l'âge moyen de cessation d'activité et l'âge de liquidation des droits à la retraite. Et effectivement, on a des taux d'activité aux âges élevés qui ne sont pas égaux à 100%. La France est plutôt un mauvais élève si on regarde effectivement comparaison internationale.
Et en sens inverse, hein, il faut dire que depuis 2007, l'emploi des seniors a continué à augmenter de façon assez étonnante. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise. Malgré la crise, l'emploi des seniors a continué à augmenter. Ce qui a baissé, c'est l'emploi des jeunes, un peu moins l'emploi des adultes. Mais on reste quand même dans une situation où il nous manque 2 millions d'emplois pour avoir un taux de chômage correct, disons, de l'ordre de 5%. Il nous manque 2 millions d'emplois. Et la grande question, c'est... est-ce qu'on va, chaque fois qu'on recule d'un an l'âge de départ à la retraite, ça amène 500 000 personnes sur le marché de l'emploi. Donc avec 2 millions de chômeurs, est-ce qu'il faut rajouter, enfin, d'emplois manquants, excusez-moi, est-ce qu'il faut rajouter 500 000 personnes?
Alors je vous pose la question directement, puisqu'il nous reste environ une minute. Faut-il ou ne faut-il pas, Florence Legros, reculer l'âge de départ à la retraite, l'âge légal?
L'âge légal, encore une fois, moi je pense que ça sert pas à grand chose, mais il faut effectivement reculer l'âge de cessation d'activité et effectivement l'employabilité de travailleurs âgés et alors là la formation tout au long de la vie, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui prend toute son importance.
Henri Sterdignac.
Il faut surtout pas le faire brutalement, il faut pas le faire dans l'immédiat. Et en 2030, 2035, on verra la situation du marché du travail. Et là, on pourra prendre une décision avisée. Si effectivement on est en plein emploi, pourquoi pas? Si on reste en chômage de masse, non.
Alors, il y a cette question donc du totem de l'âge, mais peut-être, et ça pourra faire éventuellement l'objet d'une autre émission, parce que je pense qu'on va en reparler, cette question ne masque-t-elle pas des sujets plus lourds comme l'unification de 42 régimes de retraite en un seul? Peut-être qu'on en reparlera. Merci Henri Sterdignac, merci également à vous Florence Legros d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arnold Assewa à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio et rubrique magazine. Vous participez également au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en chinois.
欢迎收听法国国际广播电台的华语节目。第一节广播，国际标准时间每天22点到23点。第二节广播，国际标准时间每天11点到12点。
Écoutez et retrouvez les fréquences de RFI en chinois sur cn.rfi.fr.